Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 18 Mordad 1401 du calendrier iranien, 9 août 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Toutes les parties aux pourparlers de Vienne doivent être sérieuses quant à la conclusion du texte de l'accord final, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. L'Iran affirme qu'un accord nucléaire final doit garantir ses droits ainsi que la levée durable et efficace des sanctions. Les premières données de télémétrie du satellite iranien Khayyam reçues et 3 martyrs et des dizaines de blessés dans les affrontements entre la résistance palestinienne et l'armée israélienne à Naplouse. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran affirme qu'un accord final dans les pourparlers pour rétablir l'accord nucléaire de 2015 doit garantir les droits du pays ainsi que la levée durable et efficace des sanctions. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, après un tout dernier cycle de pourparlers à Vienne. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que Téhéran avait fait part de ses vues et considérations sur les propositions de l'Union européenne pour résoudre les problèmes clés restés en suspens. Amir Abdollahian a souligné les initiatives constructives proposées par l'Iran dans les pourparlers et a souligné le sérieux et la détermination de Téhéran à parvenir à un accord fiable et durable. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Les premières données de télémétrie du satellite Khayyam ont été reçues il y a quelques minutes par les stations de ce satellite dans les bases spatiales de l'Agence spatiale iranienne. Le lancement du satellite iranien Khayyam avec le porte-satellite Soyouz depuis le cosmodrome russe à Baïkonour, au Kazakhstan, aujourd'hui 9 mai à 10h22, a été effectué avec succès et il est actuellement en cours de transfert vers son orbite finale, soit une orbite de 500 km. Le satellite Khayyam est un appareil de télédétection qui prendra des images de haute qualité à utiliser dans la recherche environnementale et agricole et la surveillance des ressources en eau. Tous les ordres liés à son contrôle et à son fonctionnement seront exécutés et émis immédiatement après le lancement par des experts iraniens basés dans les bases spatiales appartenant au ministère des communications de notre pays a précisé les relations publiques de l'organisation spatiale iranienne. Le ministre iranien des télécommunications a déclaré que le lancement était le début d'une coopération stratégique entre Téhéran et Moscou dans le domaine de l'espace. La Russie a également envoyé un satellite iranien dans l'espace en 2005. L'armée israélienne prend d'assaut une zone d'habitation de la ville cisjordanienne de Naplouse, tuant un combattant de la résistance palestinienne. Ibrahim al-Naplouzi a été tué après que les forces du régime sioniste ont encerclé sa maison et l'ont frappé avec une roquette. Il était l'un des commandants des brigades Al-Aqsa. Le raid a également déclenché un échange de tirs entre soldats israéliens et palestiniens. Il a fait 2 morts parmi les Palestiniens et des dizaines de blessés, dont une femme. Pendant ce temps, le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, affirme que les Palestiniens sont unis dans leur combat contre Israël jusqu'à ce qu'ils mettent fin à l'occupation. L'armée israélienne a mené des raids presque quotidiens en Cisjordanie occupée au cours des derniers mois. Des assauts de l'armée israélienne sont de plus en plus meurtriers contre les Palestiniens qui protestent contre les atrocités israéliennes. Le secrétaire général du mouvement de la résistance libanaise, Hezbollah, a déclaré qu'il ne permettrait même pas à Israël de rêver de piller les ressources de la nation. Seyed Hassan Nasrallah a mis en garde le régime d'occupation d'Israël contre tout mauvais calcul sur les négociations sur la frontière maritime au Liban, au milieu d'un différend maritime, sur la tentative d'Israël de prendre le contrôle du champ gazier de Karish en Méditerranée. Seyed Hassan Nasrallah s'adressait à des centaines de personnes en deuil commémorant l'Ashura. Le leader du Hezbollah a également déclaré que la résistance est la seule voie vers la libération des territoires occupés par Israël et a réaffirmé à cette occasion son soutien à la cause palestinienne. Il a ensuite qualifié de honteuse la décision de certains États arabes de normaliser leurs relations avec le régime de Tel Aviv. Déplorant toujours cette tendance destructive et gratuite à abandonner la cause palestinienne, Seyed Hassan Nasrallah a déclaré que le régime de Al-Khalifa à Bahreïn, qui a ouvert les bras aux autorités israéliennes, est un exemple typique d'oppression de sa propre population musulmane, tout en accueillant des responsables du régime sioniste. Et enfin, la ville portuaire japonaise de Nagasaki marque le 77e anniversaire du bombardement nucléaire américain qui a rasé la ville et tué 74 000 personnes innocentes. 3 jours après Hiroshima, c'est au tour de la ville japonaise de Nagasaki de commémorer le 77e anniversaire de l'attaque à la bombe atomique américaine ce mardi. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le parc de la paix de Nagasaki pour rendre hommage aux victimes en offrant une prière silencieuse. Au cours de la cérémonie, le maire de Nagasaki a averti que les armes nucléaires restaient une menace réelle et actuelle. Il a également appelé à favoriser une culture de la paix et à rechercher des solutions pour le dialogue. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amiradollahian, a déclaré que toutes les parties impliquées dans les pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 doivent prendre des mesures sérieuses pour parvenir au texte final d'un accord. Amir Abdullahian a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique lundi avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, au cours duquel les deux parties ont discuté des derniers développements entourant les pourparlers. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré à Borrell que la délégation iranienne avait été sérieuse et déterminée à parvenir à un accord à Vienne et avait proposé ses idées constructives pour la résolution des questions en suspens. Les vues et considérations de la République islamique d'Iran sur les idées proposées par l'adjoint de Borrell, Enrique Mora, lui ont été transmises et toutes les parties de l'accord doivent faire preuve de sérieux et de détermination afin de parvenir au texte final de l'accord, a ajouté Hossein Amir Abdullahian. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que tout accord final doit respecter les droits et les intérêts de la nation iranienne et garantir une levée durable et efficace des sanctions imposées au pays. Il a exprimé l'espoir que la voie vers un accord final serait tracée par le réalisme et en évitant l'adoption de positions non constructives, en particulier par les États-Unis. Josep Borrell, pour sa part, a déclaré qu'il pensait que des progrès relatifs avaient été réalisés lors du dernier cycle de pourparlers à Vienne, qu'il a qualifié de positif. En tant que coordinateur de l'Union européenne, il s'est engagé à poursuivre les efforts pour rapprocher les points de vue de toutes les parties à l'accord afin de parvenir à un bon résultat. Plus tôt dans la journée, un haut responsable du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lors de nouvelles discussions sur la relance du plan global d'action conjoint à Vienne que la République islamique d'Iran a informé les parties adverses de ses positions et que des progrès relatifs ont été réalisés sur un certain nombre de questions. Soulignant plusieurs idées de Mora sur un certain nombre de questions en suspens, le responsable a ajouté « Dès que nous avons reçu ces idées, nous l'avons informé de nos réponses et de nos principales considérations. » Naturellement, ces questions nécessitent des discussions plus approfondies et nous transmettrons nos informations supplémentaires. La République islamique d'Iran et les autres parties de l'accord de 2015, à savoir la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont entamé des pourparlers dans la capitale autrichienne de Vienne en avril de l'année dernière. Alors que les parties ont noté des progrès dans plusieurs cycles de pourparlers, l'indécision dont a fait preuve Washington a empêché toute percée significative. Le mois dernier, les négociations se sont déroulées dans la capitale qatarie à Doha dans un format différent. Téhéran et Washington, tenant des pourparlers indirects sous la médiation de l'Union européenne. Ces pourparlers n'ont pas non plus produit de résultats tangibles en raison des exigences excessives des États-Unis. Après plusieurs mois d'impasse, les pourparlers de Vienne ont repris jeudi. Des négociations au niveau des experts ont eu lieu entre la République islamique d'Iran et le groupe des pays 4 plus 1.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, Israël est revenu à la raison et a décidé de prendre très au sérieux la menace du Hezbollah qui a marqué des avancées militaires considérables au cours de ces deux dernières années, concernant bien sûr les sites offshore de gaz en Méditerranée, Karish. Voilà, alors l'exploitation et l'exportation du gaz de la Méditerranée étaient illégalement exportées bien sûr par Israël. Et cet arrêt va bien sûr profiter à la Russie. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Mardi noir pour l'entité. Le mardi 12 août, peu après que l'Américain Rothstein, arrivant en catastrophe à Tel Aviv en provenance de Beyrouth, eut fini par bien tirer au clair la situation, faisant comprendre au gourou Lapide et à ses lieutenants que « the game is over » et que la moindre obstination dans le sens d'un pompage par coup fourré interposé du gaz de Karish risque dès le soir du 31 août de déboucher sur un vrai enfer gazier, enfer qui, à en juger le tout dernier clip vidéo du Hezbollah, pourrait ne pas impliquer, comme le 2 juillet, des drones, mais bel et bien du bon missile. La pressionniste s'est mise à en parler comme capitulation. Oral comme écrite, cette presse a déclaré que l'accord avec le Liban commence à prendre forme maintenant et que cet accord auquel Israël n'a d'autre choix que de se soumettre à tout pour ressembler à une reddition complète du Premier ministre Yair Lapid et de son ministre de la guerre Benny Gantz au Hezbollah et partant une grande victoire pour Nasrallah. Mort dans l'âme, cette presse et les chroniqueurs tordus qui écrivent ont brossé un tableau catastrophique de la suite qu'ils attendaient en affirmant que si Israël a été amené à jeter du lest sur un dossier aussi stratégique, qu'en serait-il d'autres dossiers qui ont tout pour miner les capacités énergétiques d'Israël, comme par exemple l'exploitation des gisements gaziers libanais. Ce premier pas en arrière est très inquiétant, car à coup sûr, il ne sera pas le dernier. Le Hezbollah cherchant par la suite à ramener à Karish les exploiteurs iraniens à refaire le même coup à Cana, où l'État libanais en veut à mort au français Total et à l'italien ENI d'avoir empêché la Russie à mettre la main à la pâte et à extraire du gaz. Rien que pour servir évidemment les intérêts d'Israël et préserver à l'entité le statut de la seule partie gazière du bassin sud de la Méditerranée orientale. Puis, qu'est-ce qui empêcherait le CGRI de refaire le même coup qu'il a fait au Venezuela, où il a remis sur les rails les raffineries entières, quitte à faire de Caracas un partenaire énergétique durable pour Téhéran, à noter main en rêve, tout en laissant apparaître une autre crainte, celle de voir la Syrie aussi rallier le jeu. Une Syrie où la Russie mène depuis un bon bout de temps des travaux de forage et qui, une fois unie au Liban, pourrait littéralement remettre en cause le monopole gazier israélien.
Voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités. En commençant par Mme Aïssar Midani, experte franco-syrienne des questions internationales, qui est avec nous depuis Damas. Mme Midani, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe Presse TV et merci de votre invitation. Et bonjour aussi à tous les téléspectateurs.
Un plaisir de vous recevoir, Mme Midani. Un grand bonjour à Monsieur Arnaud Develet, juriste international, qui est avec nous également depuis Damas. Monsieur Develet, bonjour.
Ah, Monsieur Develet.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Voilà. Alors, ma première question va s'adresser à vous, Aïssa Armidani, qui est avec nous depuis Damas. Alors, le site offshore est gazier de Karish, donc dans la Méditerranée, avec des ressources gazières considérables, a été renoncé d'être exploité illégalement par Israël. Est-ce la montée militaire du Hezbollah qui a cessé cette exploitation ou bien la Russie?
Je pense que là, c'est vrai que les Israéliens s'étaient présentés avec un bateau déjà pour les guerres, un bateau dit grec, mais qui en fait est sioniste à la base. Et ils voulaient exploiter toutes ces ressources gazières et mettre tout le monde devant le fait accompli. La réaction du Samahat al-Sheikh Nasrallah a été sans appel. Immédiatement, en fait, la défense il y a eu un discours de mise en garde et très très dissuasif hein, où il mettait en garde Israël de ne pas voler les ressources libanaises d'une part et de ne pas exploiter ce puits de Karish. Avant qu'il n'y ait vraiment un tracé des lignes de différenciation, je dirais. Suite à ça aussi, il y a eu donc trois drones qui ont été envoyés par le Hezbollah, qui ont montré effectivement que tout ce puits et tout ce qui se passe sur toute la Méditerranée est aussi sous contrôle et sous la visée, sous la portée de feu, si on peut dire, libanaise du Hezbollah, et que de toute façon, on pourrait effectivement, s'il y a la moindre violation, il pourrait effectivement attaquer. De plus, il y a eu des vidéos qui ont été aussi publiées par le Hezbollah, pour montrer aussi non seulement la portée sur l'ensemble de ces la portée, mais même le contrôle de ce qui se passe dans tous les puits de la Méditerranée. Et Samahat al-Sheikh Nasrallah avait parlé. Si ça arrive, effectivement, donc nous irons non seulement jusqu'à Karish, mais jusqu'à après Karish et après Karish, faisant entendre que de toute façon, nous irons jusqu'à tous les puits et tous les gisements de la Palestine occupée, donc au nord du Liban, oui. Au sud du Liban. Donc ça, c'était très dissuasif. Ajouté au fait que le président libanais a bien affirmé aussi le droit libanais aussi à l'exploitation de ces gisements, puisque il faut quand même le dire, les États-Unis font toutes les pressions possibles et imaginables pour que le Liban n'exploite pas ses propres ressources, pour l'interdire et pour dépêcher des compagnies américaines, israéliennes, etc. à le faire, et avec des menaces. Donc ça aussi, ça a été un point très important. Donc le Hezbollah a soutenu et renforcé la position de l'État libanais, malgré le fait qu'il y ait quand même à l'intérieur du Liban énormément de forces de cinquième colonne, je dirais, israéliennes, qui ont commencé à faire des diversions contre le Hezbollah et contre l'État libanais. Un dernier point, je voudrais ajouter la déclaration actuelle hier, en fait, du président du grand général Salami, dirigeant des forces de la républicaine, des gardes républicaines iraniennes, où il a annoncé aussi que Hezbollah, d'une part, le soutien résolu en fait de l'Iran à toutes les forces de la résistance palestinienne et libanaise d'une part, et puis d'autre part que de toute façon le Hezbollah détient aujourd'hui plus de 100 000 missiles et drones qui sont capables de faire pleuvoir et
absolument
sur la Palestine occupée des pluies de feu quoi.
Absolument.
Donc, effectivement, et ceci pendant la réunion du cabinet israélien, qui en fait a fini par dire « bon, ok, on remet à plus tard, à fin septembre, on revoit fin septembre cette question ». Il est important de dire aussi que le médiateur, entre guillemets, qui était censé être médiateur pour la commission de tracé des lignes, nommé par les Américains, est un Israélien, c'est Amos Hochstein, qui a été aussi en Israël, et il avait fait même son service militaire en Israël. Donc on peut dire que c'était loin d'être quelqu'un qui était arbitrable, je peux dire, ou capable d'être d'arbitrer, puisqu'il est complètement un parti
Absolument.
Pour Israël.
Absolument.
Donc tout ceci, maintenant la situation a été complètement renversée. Israël est en fait cette entité sioniste est sur la défensive, d'autant plus qu'ils ont fait aussi ils ont arrêté et kidnappé un grand dirigeant du djihad islamique il y a deux jours, et que suite à ça donc après il y a eu une grande délégation de la résistance palestinienne qui contient tous les représentants et des représentants plutôt de toutes les organisations palestiniennes, qui ont été reçus à Téhéran et qui ont été même reçus par le président Raisi, suite à ça aussi, il y a eu une affirmation encore plus importante aussi du soutien résolu de l'Iran à la résistance palestinienne, à la résistance libanaise et à toute la résistance dans la région.
Alors, Maître Arnaud Develet, Madame Aïssa Armidani a presque répondu à toutes les questions concernant donc la question de offshore du site gazier de Karish. Merci à vous. Restez avec nous. Nous avons d'autres questions à vous poser. Je m'adresse à vous, Monsieur juriste international Arnaud Develet depuis Damas. Alors, vous êtes juriste, donc vous êtes très bien placé pour répondre à la question suivante. De la base, comment se fait-il que Israël a pu déjà occuper ces sites et exploiter illégalement pendant longtemps donc ces gaz, jusqu'à arriver à la menace sérieuse de Hezbollah pour arrêter d'exploiter illégalement ces sites?
Écoutez, je pense que cette question a une réponse en deux parties. La première, c'est ce que Dr Milani soulignait, cette façon de faire des Israéliens, d'établir une réalité de fait accompli, sans se préoccuper des usages et des conventions. La deuxième, il faut aussi faire preuve d'introspection quelque part et appeler un chat un chat. Le fait d'avoir pu, au travers de leurs agents au Liban, et Dieu sait qu'il y en a un paquet, d'influencer au niveau de l'État institutionnel de façon à, quelque part, créer une situation juridique qui va à l'encontre des intérêts du Liban, puisque si on s'en tient au droit maritime coutumier, le droit international par défaut, à défaut d'avoir un accord explicite, la discussion le paradigme même, le contour de la discussion juridiquement parlant sur ces lignes 23 contre 29, est complètement aberrante, quelque part. Le souci, c'est qu'il y a quand même eu des papiers qui ont été enregistrés au secrétariat de l'ONU il y a de ça 12-13 ans, sur lesquels les Israéliens s'appuient. Ce qui veut dire que, quelque part, au Liban, quelqu'un très haut placé à l'époque a donné son aval, a mis le tampon sur ces documents. Donc, dans ce contexte-là, après, je pense qu'il ne faut pas se laisser piéger et regarder de plus près, si je puis dire, ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, juridiquement parlant. C'est une question qu'il faut regarder dans un prisme élargi. Ce prisme élargi, il est quoi? Il est que, et tout est connecté aussi avec les discussions sur le soi-disant accord nucléaire iranien. Ça permettrait à l'Iran, si cet accord venait à se faire, de devenir un exportateur à part entière et d'empêcher l'entité sioniste de devenir le détenteur d'un monopole énergétique dans la région. Et c'est ça, en fait, le cœur du sujet. On peut penser que l'effondrement économique du Liban provoqué en octobre 2019 par un de leurs agents à la tête de la banque centrale du pays a créé les conditions idoines pour ensuite faire chanter les autorités libanaises suite effectivement à l'effondrement que cela a engendré, le fait qu'ils sont sous pression de leur propre peuple qui a littéralement n'a plus rien à manger. Je vous rappelle quand même qu'il y a des queues, des listes d'attente, des gens qui font la queue pour des miches de pain à Beyrouth. Que le pays est complètement ingouvernable, que l'État, peu qu'on puisse parler d'un État digne de ce nom, n'a jamais été en mesure de pourvoir quoi que ce soit en termes de besoins élémentaires. Et c'est une dimension que les Israéliens ont exploitée, bien sûr, en rajoutant de l'huile sur le feu. On a pu voir qu'aux élections législatives récentes, ils avaient certainement sponsorisé au travers d'ONG qui sont financées par leurs intérêts des candidats dits libres et indépendants, mais qui sont en fait des points d'achoppement pour pouvoir faire échec à sur des dossiers stratégiques. Dossiers stratégiques qui se résument essentiellement à ce pivot géopolitique vers l'Est. Et dans ce contexte-là, c'est aussi une lutte d'influence entre des anciens mandataires coloniaux et leur soutien au-delà de l'Atlantique, d'un côté, et la capacité pour le Liban de pouvoir diversifier ses options et, si je puis dire, se tourner vers des alliés géostratégiques qui puissent nous permettre d'avoir le choix quant à comment mener ses intérêts en défense de son peuple. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que nous allons vers une collision, quoi qu'il en soit. Parce que dans le paradigme de discussion actuelle, les Israéliens n'ont pas l'intention de donner aux Libanais ce qui leur revient de droit si on s'en tient au droit maritime coutumier. Hein. C'est une situation similaire avait été évoquée par rapport à la ligne de tracé entre la Syrie et le Liban pour, pareil, les lignes maritimes. On a appliqué le droit maritime coutumier et ça a été réglé en deux secondes.
Maître de Volley.
Visiblement... on va pas. Oui.
Mais excusez-moi, c'est peut-être la raison pour laquelle le Hezbollah a décidé de passer à l'action et de menacer directement ces sites.
Oui, absolument, parce que le Hezbollah a parfaitement compris la psychologie des gens à qui ils avaient affaire. Donc ils savent très bien que de toute façon, au-delà des gesticulations diplomatiques, des visites d'émissaires spéciaux, donc on pourrait, donc, la neutralité pourrait être remise en question, ça va sans dire, qui plus est représente des intérêts américains quand on comprend la pénétration de l'establishment américain par les lobbies sionistes, on ne peut que douter de l'impartialité de ce dernier. Et donc, visiblement, tout ça, c'est un théâtre d'ombre. On va vers la confrontation. Et pour l'entité sioniste, il est hors de question de permettre au Liban de devenir un compétiteur en Méditerranée orientale. Et donc, ça passe par l'accaparement des ressources énergétiques de ce pays, et pour peu qu'il y ait encore des miettes à prendre, les empêcher ensuite effectivement d'avoir les installations et les infrastructures nécessaires au sein du pays, avec probablement l'argent russe qui pourrait permettre effectivement ce raffinement, hein, ce processus de mise sur marché, de voir le jour. Et quelque part, j'allais dire que au travers du prisme de ce dossier qui semble juridique et technique, c'est une question aussi qui a à voir avec le point fondamental que le Liban ne reconnaît pas l'entité sioniste. Donc à partir de là, accoucher d'un accord sous pression du fait que le Liban a besoin de revenus et très rapidement, ça mènerait, si vous voulez, à une pente dangereuse qui pourrait être exploitée ensuite par certaines forces au sein du Liban qui diraient, mais si on est capable de s'asseoir et d'arriver à un accord avec l'entité sioniste sur la question du gaz, le partage du gaz en Méditerranée, qu'est-ce qui nous empêcherait ensuite d'aller plus loin et de faire effectivement le processus de normalisation? Ce qui est exactement ce qui est recherché quelque part. C'est la normalisation avec le pistolet sur la tempe. Et ça, oui. Le Hezbollah ne l'acceptera jamais.
Absolument. J'aimerais connaître l'avis de Aïssar Midani. Alors, il y a quelques jours, la confrontation semblait inévitable, mais maintenant, il semble que Israël est revenu à la raison et peut-être arrivé à un accord concernant ces gaz. Aïssar Midani.
Permettez-moi, oui, merci. Permettez-moi de rebondir aussi sur ce que dit Maître de Velay. D'abord, il y a quand même un certain nombre de principes qu'il faut asseoir. Israël est un occupant. Il occupe la Palestine. Les richesses de la Palestine sont aux Palestiniens. Et normalement, un occupant n'a pas à exploiter les ressources d'un pays qui appartiennent au peuple qui l'occupe, et ce, selon toutes les lois internationales, tous les droits des peuples. Ça, c'est un premier point. Or, c'est systématiquement violé par cette entité sioniste. Deuxièmement, effectivement, le Liban a le droit d'exploiter complètement ses ressources, et malheureusement, la pression américaine au niveau de la politique intérieure et extérieure libanaise empêche le Liban d'exploiter ses ressources. Il y a eu déjà d'ailleurs deux contrats, un contrat avec une société française Total pour ne pas la nommer, et puis avec une société italienne qui n'ont rien fait du tout. Et les contrats ont été malheureusement renouvelés alors qu'ils n'ont toujours rien fait. Et en fait, ces contrats ont été donnés à ces deux sociétés et elles ont été refusées à des sociétés iraniennes et russes et qui voulaient effectivement tout de suite agir et exploiter les ressources. Ce qui veut dire en fait que toutes ces pressions qui s'exercent sur l'État libanais par le biais à la fois de sanctions économiques, par le biais des pressions américaines et françaises, anglaises, etc., donc des pressions de l'OTAN qui empêchent que le Liban puisse exploiter ses propres ressources, on fait que le Liban est dans une situation économiquement catastrophique, ajoutée d'ailleurs à la catastrophe de destruction du port. Et toutes les catastrophes qui sont liées à la destruction du port, c'est-à-dire une interdiction qu'il y ait une véritable enquête, interdiction qu'il y ait de véritables sanctions contre les vrais coupables, etc., etc. Tout ceci est lié et empêche effectivement le Liban d'exister en tant que peuple et d'avoir, alors qu'il est extrêmement riche, et d'avoir l'usage de sa richesse. C'est une situation complètement ubuesque, hein. Et que le Hezbollah arrive à décanter rapidement, justement en jouant du rapport de force, mais en fait non sans peine. Et malheureusement aussi, et parfois c'est à la limite de la division sociale, je dirais, étant donné la force des cinquièmes colonnes israéliennes à l'intérieur du Liban, et pas seulement cinquième colonne israélienne, mais aussi américaine et otanesque de l'OTAN. Donc voilà, et je trouve que c'est très positif que le Liban et que le Hezbollah arrivent à effectivement imposer à ce qu'il y ait des sociétés iraniennes, russes et autres qui exploitent le pétrole et le gaz libanais. Et que le peuple libanais puisse profiter de sa propre richesse pour résoudre toutes ces questions économiques auxquelles il est en but.
Aïssa Armidani, experte franco-syrienne depuis Damas, merci beaucoup d'avoir intervenu dans l'émission du débat d'aujourd'hui. Également un grand merci à Maître Develay depuis Damas également d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Actuellement, les ressources ne constituent pas la base de l'économie industrielle, mais le capital intellectuel l'a remplacée. Pour cette raison, les organisations et les centres qui fonctionnent sur la base des connaissances sont considérés comme des facteurs vitaux pour le développement économique de chaque pays. Dans l'émission « L'économie basée sur le savoir en Iran », diffusée chaque semaine, nous nous familiarisons avec les institutions et entreprises basées sur le savoir, la relation entre l'économie basée sur le savoir et la croissance économique. Un total de 5 974 entreprises fondées sur le savoir approuvées par le groupe de travail pour l'évaluation des entreprises fondées sur la connaissance sont actives en Iran depuis mai 2021. L'une de ces sociétés est Puyesh Royan Tasvir, qui a été créée en 2004 afin de développer et de nationaliser la technologie des systèmes de vidéosurveillance électronique avancée. Grâce aux efforts d'ingénieurs, de chercheurs et d'élites industrielles et universitaires, cette entreprise a réussi à obtenir une licence d'exploitation de la part du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, ainsi qu'à obtenir un certificat du département des sciences et de la technologie affilié au bureau présidentiel et travaille maintenant comme une entreprise capable de concevoir et de produire des systèmes de vidéosurveillance électronique avancés avec une capacité de production élevée. Les gens spécialistes de cette société essaient toujours de concevoir et de fabriquer des produits de qualité qui peuvent être comparés aux plus grandes marques mondiales en tenant compte de l'avancement de la technologie dans le monde, en prenant en considération les besoins et les conditions à l'intérieur du pays. Les produits de la société Puyesh Royan Tasvir ont été revus et confirmés en termes de qualité lors de nombreux tests opérationnels et sur le terrain. Actuellement, les produits de cette société sont utilisés dans divers projets pétroliers publics. Parmi les produits de la société Puyesh Royan Tasvir figurent des convertisseurs à fibre optique, des caméras de vidéosurveillance, des appareils d'enregistrement et de diffusion vidéo et des commutateurs réseau, des caméras analogiques, des appareils d'enregistrement et de diffusion vidéo, etc. L'un des points forts de cette entreprise est la conception et la production de produits selon les besoins des clients. De plus, la production de plus de centaines de produits commandés avec différentes spécifications demandées et leur utilisation dans les institutions et organisations gouvernementales font partie des activités de cette entreprise depuis plus d'une décennie. Dans le but de produire et de livrer des produits de qualité, l'entreprise a été équipée de machines modernes avancées pour la ligne de production, du laboratoire et de la salle d'essai afin de contrôler à 100% les performances à différentes étapes du processus de production pour réduire la force humaine dans le processus de production autant que possible et dans le but de l'utiliser dans les recherches, l'innovation, la planification, la surveillance et le contrôle des processus de production, afin d'améliorer les services, de fournir des produits de qualité et de fabriquer des produits basés sur le savoir, cette entreprise a réussi à obtenir des certificats pertinents. Parmi les principaux clients de la société Puyesh Royan Tasvir figure le nom de la Compagnie nationale de pétrole, la Compagnie nationale de gaz, la Société nationale des régions pétrolifères du Sud, le Centre pétrochimique de Manchar, l'Institut de recherche sur l'industrie pétrolière de Téhéran, la raffinerie de gaz Shahid Hashemi-Nejad, la raffinerie de pétrole Bandar Abbas, la raffinerie de pétrole de Lovan, la compagnie Covion Petrochimical, la raffinerie de gaz d'Assalouye, la compagnie de gaz de la province de Téhéran, etc. Aujourd'hui, à l'ère de la science et de la technologie nucléaire, les êtres humains vivent dans un monde complètement différent du passé. La technologie nucléaire et ses acquis sont devenus un élément indissociable des moyens de subsistance et du bien-être des populations. Étant donné que les spécialistes iraniens ont toujours été des pionniers dans le domaine de la connaissance et de la santé des sociétés humaines, la compagnie Pars Isotope est principalement active dans le domaine de la production et du développement de divers radioisotopes, des équipements respectifs et des services pertinents dans les domaines médical et industriel. Jusqu'à présent, cette entreprise a pris des mesures pour fournir des produits et services efficaces, et cela a été rendu possible grâce à l'utilisation de technologies modernes et mises à jour, d'une main-d'œuvre experte et qualifiée, et des normes de qualité les plus élevées. La société Pars Isotope est attachée aux connaissances techniques les plus récentes et à l'utilisation correcte des applications de rayonnement sur les marchés nationaux et internationaux. La compagnie Pars Isotope est active dans le domaine de la production industrielle de divers radioisotopes utilisables en médecine et dans l'industrie, la fabrication de sources radioactives utilisables dans l'industrie et dans la médecine, ainsi que de leurs capsules, le développement des radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques, l'invention et l'optimisation de méthodes avancées dans la production de radioisotopes, la mise en place de systèmes appropriés pour la séparation de radioisotopes et la conception et la fabrication de systèmes de soins personnels et environnementaux, de kits d'inspection et d'équipements radiographiques. Pour en savoir plus sur les produits de cette entreprise et qui fabrique des produits dans les domaines médicaux, industriels, d'équipements et de services, nous mentionnerons brièvement certains de ces produits. L'un de ces produits, qui est utilisé à des fins médicaux et a une application diagnostique, est la radiopharmaceutique prête à l'emploi. La radiomédicament désigne les médicaments radioactifs utilisé dans le domaine de la médecine nucléaire et comme traceur pour le diagnostic des maladies. Ces produits sont constitués de deux parties différentes de radioisotopes et d'un composé chimique. Dans la compagnie Pars Isotope, plusieurs types de produits radiopharmaceutiques prêts à l'emploi sont produits dans des réacteurs et par des cyclotrons. Les produits pharmaceutiques de la société sont qualitativement conformes aux pharmacopées internationales. L'or de radioactivité fabriqué dans la compagnie Pars Isotope peut également être utilisé partout où des matières radioactives sont utilisées. Par exemple, le contrôleur main-pied est un instrument pour une surveillance simultanée des mains et des pieds pour la contamination sulfacique et détecter la pollution alpha et bêta. Le logiciel de cet appareil détecte les changements d'arrière-plan pendant la surveillance et utilise des avertissements sonores et des messages visuels pour notifier l'état.